Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre, et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. Troisième épisode de notre série consacrée aux poissons, des poissons et des hommes. Les tensions économiques, sociales et politiques provoquées par la demande mondiale en produits de la mer qui ne cesse d'augmenter. Nous parlions hier du poisson d'élevage en Norvège et au Chili notamment. Demain, nous parlons du calamar traqué par les bateaux usines. Aujourd'hui, le merlu, le hareng, le cabillaud, les poissons de la discorde dans les eaux britanniques.
Being no doubt, Nick, that there are great opportunities for fishermen across the whole of the UK.
Ça ne fait aucun doute. Il y a d'énormes opportunités pour les pêcheurs du Royaume-Uni, pour tirer profit de l'extraordinaire richesse marine du Royaume-Uni. Dans 5 ans et demi, nous aurons accès à tout le poisson dans toutes nos eaux côtières. Et aujourd'hui, nous avons déjà accès à 25% de plus qu'il y a un mois.
Tout l'été, on passe notre vie chez les Anglais, nous. On pêche 80% du poisson l'été chez eux. Nous, l'été, ici, on n'a rien. On crève la gueule ouverte.
Je ne sais pas vraiment si l'on voulait quitter l'Europe, parce qu'on veut tous faire du commerce avec nos voisins. Qui ne le voudrait pas? Ce serait bizarre de ne pas pouvoir faire de commerce avec ses voisins. En fait, avec le recul, je me dis qu'on aurait peut-être dû rester dans l'Union européenne.
C'était une amitié déjà fragile, mais qui ne tient plus que par la colle des timbres-poste. Pêcheurs anglais et français se connaissaient plutôt bien, se saluaient trois coups de sifflet quand leurs bateaux se croisaient dans la Manche ou en mer du Nord. Sans doute certains le font-ils encore, mais depuis le Brexit, l'Union européenne d'un côté et le gouvernement britannique de l'autre ont pris la main sur leurs relations. Leur histoire commune n'est plus qu'une affaire de quotas. D'ici 2026, l'Union européenne aura rendu, comme elle s'y est engagée, 25% des quotas que ses bateaux pêchés dans les eaux britanniques, soit un chiffre d'affaires de 173 millions d'euros transférés de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Il faut dire qu'au moment de la campagne pour le Brexit, le Royaume-Uni avait fait du contrôle de ses eaux un enjeu de souveraineté nationale. Les pêcheurs européens étaient désignés comme les responsables, entre autres, de ces problèmes économiques. Alors, 4 ans après l'accord de sortie de l'Union, pourtant, les pêcheurs anglais ne semblent pas se porter beaucoup mieux. Est-ce entièrement la faute du Brexit? Comment s'en sortent de leur côté les pêcheurs européens et notamment français? Et puisque notre série se consacre aux poissons, quels sont dans la Manche et en mer du Nord les poissons de la discorde? Nous en parlons ce matin avec deux invités. Bonjour Pascal Le Floch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur en économie au laboratoire AMUR d'aménagement des usages, des ressources et des espaces marins et littoraux de l'Université de Brest. Et vous êtes en studio dans les studios de France Bleu à Quimper avec Sébastien Metz. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, économiste des pêches pour le bureau d'études Sakana Consultant. Je précise que c'est un bureau d'études qui produit des rapports à la fois pour l'Union européenne, pour la France, pour le Royaume-Uni sur le secteur de la pêche et notamment depuis le Brexit. Alors avant de parler avec vous de quotas de pêche, d'abord pourquoi les Européens et en particulier Français sont si attachés aux poissons des eaux britanniques, Sébastien Metz?
Ils sont bien attachés aux poissons qui sont autour des îles britanniques parce que traditionnellement, ce sont des lieux où ils trouvent en fait les poissons qui sont demandés par leurs clients, qui sont principalement les consommateurs français et puis en moindre mesure les consommateurs espagnols. C'est la biologie. En fait, les poissons ne sont pas répartis uniformément partout. Il y a des endroits où ils sont plus en abondance. Et il s'avère que les îles britanniques ont dans leurs eaux des poissons qui nous intéressent.
Des poissons qui nous intéressent aussi parce qu'ils y sont plus gros. En tout cas, les poissons adultes, paraît-il, se retrouvent plutôt vers le sud de la mer du Nord. Les œufs des poissons adultes sont plutôt dans le sud de la mer du Nord. Et les poissons plus gros, ceux qu'on pêche parce qu'on les consomme, sont plutôt dans le nord de cette mer, donc plutôt près des côtes du Royaume-Uni.
Alors, c'est quelque chose qui a un peu évolué au cours du dernier siècle. Il y a des chercheurs qui ont regardé un peu la distribution des espèces en mer du Nord. Et en fait, il s'avère que les espèces qui étaient plutôt, on va dire, au sud-est de la mer du Nord, avec les différents changements que l'on a connus au cours du dernier siècle, ces espèces-là ont eu tendance à migrer légèrement vers le nord-ouest, donc en fait vers la partie britannique de la mer du Nord. Notamment la plie, la sole, qui sont des espèces qui nous intéressent beaucoup.
La plie, c'est le carrelet. Pour le cabillaud aussi, cette répartition est assez marquée. Alors une question naïve et sans doute bête, Pascal Le Floch, mais je vous la pose parce que c'est assez complexe de s'y retrouver dans ces histoires de quotas. D'abord, pourquoi après le Brexit, on n'a pas eu une répartition des autorisations de pêche la plus simple du monde, à savoir aux Français les eaux françaises, aux Espagnols les eaux espagnoles, etc.
Alors c'est un point d'histoire important puisque la politique commune des pêches, elle est négociée en 1976 à La Haye, aux Pays-Bas, et le Royaume-Uni est depuis 73 nouveau membre de la CE. Donc le Royaume-Uni va participer activement au partage des quotas sur le fait que les eaux de chaque pays vont devenir les eaux de l'Union européenne au cours des années 80. Et donc en 1976, le Royaume-Uni va récupérer 36% de l'ensemble des quotas des pays côtiers en équivalent morue. Et la France, 13%. Donc,
ça veut dire quoi, en équivalent morue, pardon?
En équivalent morue, ça veut dire que, et c'est toute la complexité, mais aussi la richesse de l'halieutique, des pêches maritimes, on a potentiellement plus de 400 espèces commerciales dans le golfe de Gascogne, mer d'Irlande, et donc l'équivalent morue, donc la morue découverte par John Cabot au XVIe siècle, a toujours été le poisson roi, et qui permet de dire combien faut-il de sardines en francs ou en euros trébuchants pour constituer l'équivalent d'un kilo de cabillaud.
Voilà. C'est l'étalon de la mer.
Et tout à fait, l'étalon de la mer. Et donc, les eaux britanniques sont les plus poissonneuses, comme le vient de le dire Sébastien Mest. Donc, 36% des droits attachés au Royaume-Uni, 13% pour la France, mais ce sont surtout les flottilles chalutières françaises qui ont des droits historiques dans les eaux britanniques. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a restitution pour 2026 d'une partie des quotas qui étaient partagés au sein de l'Union européenne.
Le Brexit vient remettre sur le devant de la scène la question de la répartition des quotas qui date des années 70. Il faut d'abord comprendre non seulement qui pêche où, mais qui pêche quoi et où, puisque les quotas sont répartis à la fois par pays, par zone de pêche, par espèce. Pour résumer à très gros traits, les Britanniques, d'après le Brexit, ont récupéré une partie des quotas européens, donc 25% de ce que les bateaux de l'Union européenne pêchaient dans leurs eaux britanniques. L'heure revient aux Britanniques progressivement. Ce transfert de quotas doit durer jusqu'en 2026. Mais 25% de quoi exactement, Sébastien Metz? De quel poisson? Pourquoi les Britanniques disent que ce ne sont pas les bons quotas?
Alors, quand on dit que les Britanniques disent que ce ne sont pas les bons quotas, ça dépend à qui vous parlez. En fait,
aux Britanniques en l'occurrence. Non, pas tous, mais même pas.
Quand j'entends quel Britannique. La grosse problématique du Brexit et de la pêche, c'est que autant en France qu'au Royaume-Uni, le secteur de la pêche est très divers. Et en fait, vous avez des gagnants et des perdants. Dans la répartition des quotas, c'est pas on prend l'ensemble des quotas européens, on fait moins 25% et on redonne ça aux Britanniques. Il y a eu un accord très long, très fastidieux, qui a regardé 105 stocks et qui a décidé sur les 105 stocks de comment est-ce que l'on répartissait cette diminution. Et en fait, cette diminution s'est concentrée sur quelques stocks, essentiellement des stocks de ce qu'on appelle les petits pélagiques, donc du maquereau, du hareng, Et puis certains stocks d'espèces démersales, de ce qu'on appelle les poissons blancs ou des poissons plats. Et en fait, c'est essentiellement la sole. Donc, quand vous êtes au Royaume-Uni, maquereau et hareng, en fait, sur les quelques 4500 bateaux, le maquereau et le hareng, ça concerne en fait 50 bateaux. À tout casser.
Parce que ce sont d'énormes bateaux, leur sortie en mer peut durer jusqu'à 2 mois. Les poissons pélagiques, c'est ces poissons qui nagent à mi-hauteur entre le fond et la surface. Donc il faut, pour aller les pêcher, d'énormes navires. Et ils en ont assez peu, une cinquantaine à tout casser, dites-vous.
Alors, ouais. En plus, ils sortent même pas 2 mois. Parce qu'en fait, c'est des bateaux qui peuvent sortir 2 mois, mais ces pêcheries-là sont très particulières. Ces bateaux-là sortent 2 jours, pêchent 10 tonnes et vont le vendre directement au transformateur. Mais ces pêcheries-là se font au nord des îles Shetland, en plein milieu de l'hiver. Donc, au nord des îles Shetland, en plein milieu de l'hiver, un petit bateau de 15 mètres ne sera pas capable d'y aller. Donc, en fait, techniquement, ce sont des bateaux de plus de 40 mètres. Quand on regarde vraiment dans les faits, c'est des bateaux qui font 55-60 mètres. Et en fait, ils sont, quand on dit 50, on est vraiment gentil. Je pense qu'en fait, actuellement, ils devaient être 27 ou 28. Mmh. C'est des bateaux qui sont extrêmement rentables. Donc eux, ils ont, enfin, je dirais, ils ont gagné la poule aux œufs d'or. Et le reste du Royaume-Uni, en fait, se retrouve avec une situation quasi inchangée.
Pour les près de 6000 autres bateaux du Royaume-Uni, c'est ça, la grande majorité est consacrée à la pêche de poissons à chair blanche qui nagent dans les fonds marins, donc cabillaud, haddock, lotte, mais aussi sole, carrelet. Et c'est pour ça que les Britanniques disent, enfin ceux qui pêchent ces poissons-là, Pascal Le Floch, disent qu'ils se sont fait avoir.
Oui, en fait, quand on regarde la répartition des quotas depuis l'accord, depuis 2021, on a à peu près, on a 76 espèces qui sont maintenant négociées entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais sur ces 76 espèces, les 10 premières représentent la quasi-totalité, les 3/4 d'échanges de quotas. Et on va retrouver des espèces clés pour les ports français de la Manche, en Bretagne, la baudroie, la langoustine, la cardine. Et ça touche, en revanche, enfin côté français, la flottille chalutière. Mmh.
Donc de gros bateaux, 27-28 peut-être, comme disait Sébastien Metz, qui ont touché le jackpot, puisque les quotas récupérés par les Britanniques concernent surtout leur pêche, la pêche pélagique. Tous les autres, ceux qui pêchent les poissons à chair blanche qui nagent dans les fonds marins, eux se disent s'être fait avoir.
Pour nous, il n'y a pas eu de négociation du tout. On voit toujours des bateaux étrangers qui pêchent à moins de 6 miles de nos côtes. La plus grande part de ces 25%, ce sont des poissons fictionnels, des poissons de papier, du poisson qui n'est pas vraiment pêché de toute façon. Pourquoi est-ce que la pêche devrait être l'agneau sacrifié? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu sacrifier toutes nos communautés pour sauver quelque chose d'autre? Ce ne sont pas des négociations, c'est une capitulation.
Une capitulation, dit ce pêcheur britannique, interrogé par Radio-Canada il y a 2 ans. 25% de quotas rapatriés de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Alors c'est loin des 80% qu'avait fait miroiter Londres à ces pêcheurs dans la campagne du Brexit, mais ça reste plus que ce que les Européens avaient proposé au départ, 13%. Et c'est là encore une fois qu'il faut faire preuve de pédagogie, Pascal Le Floch. Poisson de papier, dit ce pêcheur, pour désigner ces quotas qui restent des chiffres écrits sur un accord. Les quotas qui sont notamment traduits en chiffres d'affaires, un transfert de 25% équivaudrait à un transfert de 173 millions d'euros de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Tout ça, ça veut dire quoi exactement? C'est difficile de comprendre cet enjeu des 25% de quotas rendus au Royaume-Uni. Pourquoi pas 100% puisque ce sont des eaux britanniques?
Oui, c'est une situation paradoxale puisque les espèces qui font partie des 10% que j'évoquais sont des espèces historiques pour les bateaux français, mais des espèces assez peu exploitées du côté britannique. Donc on est en train, côté français, de mettre en place une politique de désinvestissement, un plan de déchirage pour retirer de la flotte des bateaux qui étaient fortement dépendants de ces espèces. Mais côté britannique, il n'y a pas, enfin à ma connaissance, une politique d'investissement dans la même capacité de production pour être capable de transformer le potentiel en effectif. Donc voilà ce qui peut expliquer le commentaire de ce pêcheur d'espèces papier.
Est-ce qu'on sait combien les pêcheurs britanniques recevaient de subventions européennes, par exemple, et combien aujourd'hui ils reçoivent de subventions britanniques depuis le Brexit? Est-ce que tous ceux qui doivent, comme certains pêcheurs français, abandonner progressivement leur activité sont compensés par Londres?
Alors en fait, historiquement, Historiquement, les Britanniques soutenaient beaucoup moins leur secteur que les certains autres pays européens comme la France ou l'Espagne. Ils ont beaucoup moins subventionné la construction de nouveaux bateaux comme on a pu le faire nous dans les années 90 et au début des années 2000. Les Britanniques ont une approche très pragmatique qui est de dire si vous êtes rentable, vous pouvez vous payer un nouveau bateau. Si vous n'êtes pas rentable, changer de métier ou changer de secteur. Donc de ce point de vue-là, l'aide au secteur, elle est très très faible. La question s'était posée juste après le vote du Brexit de savoir justement si les quotas récupérés allaient être potentiellement absorbables par la flotte existante au Royaume-Uni. Et à l'époque, j'étais dans des groupes de travail en Écosse et on avait énormément de mal à expliquer au gouvernement écossais et au gouvernement britannique qu'en fait les quotas qui allaient être récupérés par des flottilles qui étaient en sous-capacité, qui étaient donc capables d'absorber ce surplus de quotas sans investir. Les bateaux dont on parle, les très grands bateaux dont on parle, en fait, c'est des bateaux qui pêchent actuellement, ils pêchent 50 jours par an. Donc vouloir doubler leur quota, ils vont pêcher 100 jours par an, ça va pas leur poser grand problème. Vu la rentabilité qu'ils ont, ils auront aucun problème à trouver des marins pour être à bord de ces navires. Et la seule problématique qu'ils auront, c'est de trouver les usines pour accepter le poisson. Donc en fait, toute la problématique, elle vient de là. Elle vient de cette déconnexion totale entre ce que capturent certains navires et ce que l'on peut leur rendre. Au global, quand Pascal disait que les Britanniques en fait n'étaient pas tellement intéressés par les espèces qu'on leur rendait, c'est parce qu'en fait c'est des espèces qui ne sont pas mangées par les consommateurs britanniques. Donc en fait, les Britanniques vont récupérer des espèces qu'ils vont devoir nous revendre.
C'est toute une histoire quand même, parce que c'est très surprenant de comprendre, par exemple, Pascal Le Floch, que les Britanniques qui mangent beaucoup de fish and chips, en tout cas c'est l'idée qu'on en a d'ici, ce cabillaud qui est dans les fish and chips n'est pas du cabillaud qu'ils ont pêché, ils l'importent, alors qu'ils en pêchent du cabillaud.
Oui, tout à fait. Le marché, c'était un peu dans la négociation. Le marché est côté France, Italie, Espagne notamment. Donc la ressource est côté britannique, mais sans forcément avoir la capacité de l'exploiter et notamment de la valoriser. Alors que la demande est très forte côté sud du Channel. Ça montre aussi que les 25% de restitution qui sont en équivalent euro, c'est du potentiel pour deux raisons. La première, on vient de l'évoquer, c'est l'incapacité pour l'instant des Britanniques à investir dans une flotte adaptée pour ces espèces notamment. Et puis il y a aussi une culture, on peut pas comme ça investir sans avoir une culture du métier. Et le deuxième élément, il faut aussi avoir le marché, la valorisation. Donc il y a un impact côté français, certes pour certaines flottilles dépendantes, mais aussi pour les filières qui recherchaient en particulier ces espèces qu'on doit restituer, les espèces papier notamment aux Britanniques.
Alors les Britanniques qui mangent plutôt du thon, de la crevette, du saumon, de l'aigle fin pêché dans les eaux norvégiennes et islandaises, ils mangent du cabillaud, mais en général ce sont les Français qui le pêchent, donc tout ça est quand même très mal fait, cette histoire. Eux, le cabillaud, ils empêchent, mais ils l'exportent. Donc tout ça, 80% de ce que les Britanniques attrapent est exporté, ce qui pose problème avec le Brexit, puisque la paperasse, tout le côté administratif, c'est grandement compliqué.
Je ne sais pas si les gens regrettent le Brexit, mais je pense qu'ils sont déçus par le système, la mise en pratique et les résultats. Tellement de choses sont arrivées depuis le Brexit. Notre première préoccupation à Grimsby, c'était la pêche, et on dirait bien que ça a été complètement oublié. Ici, on récupérait du poisson qui venait d'Islande, on le sortait du conteneur, on le triait, on le pesait, on le répartissait dans des lots, puis on l'expédiait vers Boulogne. Eh bien, tout ça s'est arrêté. Pour éviter toutes les complications liées au délai, la paperasse, le passage des douanes et tous ces trucs, les Islandais travaillent désormais en direct. Donc le poisson va d'Islande directement vers la France et contourne le Royaume-Uni.
C'est le directeur du marché aux poissons de Grimsby au nord de Londres qui témoignait auprès de France 24 il y a quelques mois. La paperasse et tous ses trucs, comme il dit, c'est tout ce qu'il faut présenter désormais depuis le 1er janvier 2021. Quand on fait de l'import-export avec le Royaume-Uni, les pêcheurs britanniques doivent à la fois présenter un certificat de capture, un certificat vétérinaire, une déclaration d'exportation, une déclaration d'importation de la part de l'entreprise qui achète la marchandise. Sébastien Metz, comment font aujourd'hui les maisons de pêche et les entreprises exportatrices britanniques, alors que s'il est un produit qui doit à tout prix rester frais, voire vivant, c'est le poisson?
Ça a été une des grandes découvertes pour le secteur britannique, malgré de nombreuses alertes que plusieurs chercheurs européens avaient mis sur la table. Dans une des grandes victoires des Britanniques dans la négociation du traité de sortie était le fait qu'il n'y avait pas de taxes de douane. Donc tout le monde trouvait ça formidable. Le problème, c'est que il y a toute une partie de ce qu'on appelle les mesures non tarifaires, donc les mesures hors taxes, lorsque vous passez une frontière, qui sont mises en place et en fait qui sont incontournables si vous voulez rentrer en Europe. Donc tous les papiers dont vous avez cité. En fait, on avait fait un décompte, 27 documents devaient accompagner chaque lot de poisson. Donc la conséquence, en fait, a été une perte sèche pour les Britanniques, puisqu'en fait, pour un lot moyen qui pouvait faire 2000-2500 euros, vous aviez pour 500 euros de paperasse entre les papiers à faire et le temps passé à les présenter à la douane. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les petites maisons, en fait, ont pratiquement périclité pour faire du groupage, pour envoyer les poissons dans des lots assez conséquents, généralement vers des places comme Boulogne ou certains endroits en Belgique ou aux Pays-Bas. Et c'est à Boulogne, au Belgique et aux Pays-Bas où la valeur ajoutée de la création de ces petits lots est générée. Donc en fait, le Brexit, qui devait être pour les Britanniques une reconquête de leurs eaux, une reconquête de leur secteur, a vidé le secteur de la transformation et du négoce de sa substance.
Des sociétés qui ont dû abandonner leur activité. Pardon, cette histoire de groupage, ça se faisait pas avant? On n'exportait pas comme ça par lot ou du dégroupage? Je sais pas bien comment ça se dit.
Alors, en fait, avant, le passage de la frontière, c'était votre camion passait une ligne. Donc, il n'y avait pas d'arrêt en tant que tel. Du jour au lendemain, lorsque le Brexit a vraiment été appliqué, des exportateurs qui, dans un camion, avaient des lots pour 400 clients, devaient avoir 400 fois la paperasse. Donc ça représentait des ramettes de papier. C'était pas juste quelques papiers, c'était des ramettes de papier.
Des ramettes entières.
C'est à peu près ça. Au début, c'était pas numérisé, donc les services des douanes devaient passer tous les papiers un à un. Pour que les règles de commerce international fonctionnent, il faut que le contrôle soit effectif. Donc le contrôle était effectif. Donc en fait, il y a eu un arrêt du transport, des pertes qui se comptaient en journée. C'était plus du passage de frontière en quelques heures, c'était en quelques jours. Sur un poisson qui est frais, la langoustine, qui était vivante, elle est morte à la fin.
La langoustine. Pardon, exporté vers la France et l'Espagne notamment. Alors, Pascal Le Floch, est-ce qu'on n'avait pas parlé, lors du Brexit, d'autoroutes maritimes, de faire en sorte, par exemple, que les bateaux irlandais puissent... Parce que l'Irlande, on n'en a pas encore parlé, mais on dit que c'est la grande perdante de l'histoire, que ces bateaux irlandais puissent décharger dans les ports de Brest ou Roscoff. Finalement, qu'est-ce qu'il est devenu de ces projets d'autoroutes maritimes? Qu'est-il advenu d'eux, pardon?
Alors c'est plus que des projets, puisque ce qu'on appelle les bases avancées ont été mises en place dans les années 80. Hein, à l'époque, c'était des armements de l'Orient industriel, à Lochinver notamment en Écosse, et inversement, le port de Roscoff ou le port de Douarnenez sont aussi des bases avancées pour des navires irlandais ou espagnols. Il y a aussi, et c'est là qu'on voit toute la complexité de la pêche, mais qui n'échappe pas aux lois du marché, les halles marée, certaines à la marée française, importent aussi du poisson par camion pour le vendre sous leur à la marée. Parce que
qu'est-ce que c'est les à la marée, pardon? Je connais marée, mais pas les à la marée.
Oui, tout à fait. Alors les à la marée, c'est le terme technique. C'est ce qu'on appelait auparavant crier lorsqu'il y avait un crieur, un commissaire priseur pour le marché valracien, pour les économistes, par exemple. Et donc les à la marée, il reste encore une petite trentaine de à la marée sur tout le littoral français, qui sont d'ailleurs des points clés parce que c'est là où on peut avoir la traçabilité, la meilleure vérification de ce qui est extrait de la mer et ce qui est ensuite mis dans les filières. Et donc ces bases avancées existaient et continuent à exister avant et pendant le Brexit pour les Irlandais sur les ports bretons pour réduire le coût du carburant notamment et puis alimenter plus fréquemment le marché.
Et l'Irlande, alors, pourquoi dit-on qu'elle est la grande perdante de ces accords? Les Irlandais, les pêcheurs qui pêchent beaucoup de harengs dans les eaux britanniques, pourquoi dit-on que d'ici 2026, elle aura perdu 15% des quotas de pêche qu'elle avait auparavant?
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les quotas, les espèces ne sont pas toutes équivalentes. Il y a certaines espèces qui sont considérées des espèces reines par les pêcheurs parce que ce sont celles qui, quand on couple le rendement pour les capturer et le prix que l'on peut obtenir sur les marchés, sont les espèces les plus rentables. L'espèce la plus rentable que l'on ait en Europe au global, c'est le maquereau. Donc un petit pélagique qui est pêché par ces grands navires de plus de 40 mètres pour la plupart. Il y a des petits navires côtiers qui le font aussi, mais c'est pas eux qui font le gros de la capture. L'Irlande doit rendre pratiquement la moitié de son quota de maquereau dans le cadre du Brexit. Ce qui veut dire qu'en fait l'espèce la plus rentable pour leur flotte la plus rentable va être diminuée drastiquement. Et au-delà de ça, la deuxième espèce irlandaise, c'est la langoustine, qu'ils pêchent beaucoup dans ce que l'on appelle la mer d'Irlande, c'est-à-dire la mer entre l'Irlande et l'Angleterre. Et en fait, le stock de cette langoustine-là va avoir un échange de quotas assez conséquent également en faveur du Royaume-Uni, avec le premier perdant étant l'Irlande. Donc au global, quand vous regardez l'Irlande, en fait, c'est des pays riverains du Royaume-Uni, si on peut appeler ça, si on peut les appeler riverains, c'est vraiment le pays qui va le plus perdre en pêche. Et ensuite, d'un point de vue logistique, auparavant, tout ce qui arrivait et qui partait d'Irlande passait par le Royaume-Uni, puisqu'en fait, c'était plus simple de traverser la mer d'Irlande avec un ferry qui se fait en quelques heures que de contourner la Cornouaille britannique pour rejoindre Roscoff ou Saint-Malo. Donc cet allongement du délai logistique et cette complexification du délai logistique dessert également le secteur. Vous cumulez les deux et vous avez une petite bombe, quoi.
We rely mostly in the winter time on black sole and
Pendant l'hiver, on pêche surtout ici. Notre pêche repose sur la sole noire et les espèces de poissons qui sont plus proches des côtes. Comme ça, quand le temps devient mauvais, on peut rentrer rapidement au port. Mais les autres pays, comme la Belgique, se mettent de plus en plus à pêcher de la sole noire. Ils en pêchent beaucoup plus que les Irlandais, alors qu'on est sur les eaux irlandaises. Et ça, c'est seulement un exemple pour une seule espèce. Nous n'avons quasiment pas de quotas sur la sole noire. On a été sacrifiés. À chaque fois que l'on va à Bruxelles pour des rencontres ou des conférences sur le poisson, à chaque fois, les bateaux irlandais perdent des quotas. Donc le gouvernement nous a laissé tomber.
Les pêcheurs irlandais qui perdent des quotas et qui, d'ici 2 ans, auront perdu 15% des quotas de pêche qu'ils avaient auparavant. Mais ce qu'on n'a pas encore expliqué, Pascal Le Floch, c'est que ces quotas sont calculés sur la base d'un ce qu'on appelle les totaux admissibles de capture, donc de chiffres qui sont déterminés à l'avance et qui eux-mêmes diminuent. C'est quoi? C'est les stocks? Et comment sont-ils calculés? Pourquoi ont-ils aussi diminué ces quotas-là? L'ensemble des quotas attribués à tous les pays et européens et le Royaume-Uni.
Alors là, je vais faire un détour historique encore plus important qu'au début de l'émission. En 1902 est créée probablement la première institution scientifique d'évaluation de la biomasse au monde, le CIEM ou ICIS. Et donc le CIEM, ce sont les scientifiques britanniques, français, espagnols qui se retrouvent tous les ans pour faire une évaluation par espèce et par zone de la biomasse qui peut être capturée. Et donc c'est sur la base de ces évaluations que l'Union européenne va définir le fameux mois de décembre, ça dure toute une nuit, les ministres des pêches, de l'agriculture se retrouvent pour, sur la base, en principe, je dis bien en principe, des évaluations scientifiques, négocier et trouver des compromis sur les quotas, c'est-à-dire la part attribuée à chaque partie, désormais l'Union européenne, qui ensuite est répartie par pays membres. Donc les quotas sont une part du TAC, du total autorisé de capture par espèce.
Et l'Espagne avait toujours, par exemple, très peu de quotas. Pourquoi ?
Alors, l'Espagne, l'entrée de l'Espagne, c'est 1986 avec le Portugal. C'est là aussi qu'il faut se souvenir de l'histoire. L'entrée de l'Espagne a totalement bouleversé l'échiquier halieutique, l'échiquier des pêches en Europe, puisque c'est historiquement une flottille très importante, bien plus importante que la France. Et donc, en 1986, eh bien, l'Espagne demandait aussi d'avoir une part plus importante, mais je rappelle qu'en 1973, l'Espagne, évidemment, n'avait pas participé à la répartition initiale des totaux autorisés de capture équivalent morue. Donc la négociation était très difficile. Puis en 1984, deux ans avant l'entrée de l'Espagne dans la CE, un navire français, un aviso, avait tiré au canon, et c'était pas à bal à blanc, sur un chalutier espagnol. Donc gardons ça aussi en tête.
On le garde en tête, mais alors donc cette histoire de totaux admissibles de capture, si on met de côté les considérations politiques et diplomatiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne aujourd'hui, ces quotas en général ont baissé parce que la production baisse depuis longtemps déjà. Mais sur quelles espèces et de poissons, de crustacés, de coquillages, ça se fait le plus sentir ? Pascal Le Floch ou Sébastien Metz ?
Je peux commencer,
oui,
je laisserai
vous en
ensuite Sébastien. Le Brexit en fait ne change pas la trajectoire d'évolution des flottilles en Europe, puisqu'il y a la surpêche, la surexploitation, c'est-à-dire qu'il faut adapter la capacité de capture à la biomasse disponible. Le changement climatique, dont les effets sont difficiles à isoler aussi, on le voit bien, joue énormément. Beaucoup d'espèces, la sardine qui devient plus maigre dans le golfe de Gascogne.
Ça, c'est pas bon pour les conserves, ça, des sardines qui sont maigres.
Exactement, donc c'est une forte inquiétude pour l'industrie de la conserverie qui reste importante en France et notamment sur le littoral atlantique. Donc en fait, le Brexit, quelque part, ne fait qu'accentuer cette préoccupation de biomasse dont l'évaluation est très difficile à faire, pas uniquement pour la pression de pêche, puisqu'il y a quand même des pêcheries qui sont au rendement maximal durable, et heureusement, ça c'est une bonne nouvelle, mais les effets du changement climatique, et puis l'occupation de l'espace désormais par d'autres acteurs, je pense à l'éolien en mer, bouleverse ces équilibres et ça devient extrêmement difficile de trouver le chemin pour l'avenir, pour les pêches maritimes. Mais il y a un avenir, assurément.
Ça, ils le disent, les pêcheurs français, le Brexit les tient à l'écart de certaines pêches, mais aussi les parcs éoliens en mer, les zones d'extraction de granulats. Les pêcheurs français disent que la Manche se mite, par exemple. Sébastien Metz, sur cette question de quotas qui baissent de façon générale. Alors, certains augmentent, le merlan à l'ouest de l'Écosse, la cardine, c'est un poisson plat osseux. Comment aujourd'hui s'y retrouver dans ces quotas ? Est-ce que sur certaines pêches, certains pêcheurs s'y retrouvent quand même aujourd'hui dans les eaux britanniques ?
Alors, certains s'y retrouvent, mais quand on regarde, en fait, on a globalement une tendance à la remontée vers le nord d'une bonne partie des espèces. Donc, lorsque vous avez scindé l'espace en zones et attribué un quota à chaque zone, si le quota qui baisse en Manche alors que le quota augmente plus au nord, vous pouvez potentiellement vous dire que le changement climatique et la remontée des espèces vers le nord vient jouer dans le jeu historique des quotas. Une chose qu'il faut noter par rapport au pêcheur irlandais que l'on entendait, le pêcheur irlandais parlait d'une espèce que eux ne pêchent pas et que les Belges pêchent.
La sole noire.
La sole noire. Alors, on pourrait prendre cette espèce-là, on pourrait en prendre plein d'autres. Ça, c'est une des grandes problématiques quand on essaye de comprendre la pêche en Europe. C'est que, comme l'a rappelé Pascal, la politique commune des pêches, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Et en fait, à l'époque, on avait déjà une centaine de stocks. Donc un stock, c'est une espèce de poisson dans une zone que l'on devait gérer. Et au lieu de se poser la question chaque année de savoir qui allait pêcher quel pourcentage de ce stock, on a gelé cette répartition. On appelle ça la stabilité relative. C'est-à-dire que si vous considérez que dans une zone, les Français historiquement pêchaient un tiers, les Britanniques pêchaient un tiers et les Néerlandais pêchaient un tiers, on donne 33% à chacun et c'est réglé. La problématique, c'est qu'il y a plein d'espèces qui étaient pêchées dans les années 70 par les Belges, les Français, les Néerlandais, qui n'intéressaient pas les Irlandais et les Anglais à l'époque. Donc aujourd'hui, ces Irlandais et ces Anglais se retrouvent avec des espèces qui sont devant chez eux, que historiquement ils n'ont jamais travaillé. Comme ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais eu de quotas. Et donc ils se retrouvent avec des bateaux étrangers, belges, français, espagnols, près de leurs eaux.
Comme ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais eu de quotas parce que ça renvoie à l'émission de lundi à une question d'antériorité quand sont fixés les quotas.
Voilà. Et ça, en fait, quand vous rajoutez ces antériorités qui sont gelées sur un poisson qui bouge, ça pose des problèmes énormes. Puisque si vous considérez que, si vous regardez certaines zones, en fait, le quota au sud est pêché par certains pays membres, le quota au nord est pêché par d'autres pays membres. Donc pour une même espèce, en fait, le changement climatique transfère le quota de certains pays membres à d'autres pays membres.
Et quand on parlait des pêcheurs belges, eux, ils font plus de 90% de leur chiffre d'affaires dans les eaux britanniques, donc le Brexit les a beaucoup aussi affaiblis, en tout cas leur fait particulièrement peur. Ça se complique encore cette histoire de quotas quand on rappelle que par ailleurs, en Atlantique Nord-Est, la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, et les îles Féroé, archipel danois autonome en matière de pêche, ont refusé de leur côté donner accès à leurs eaux aux bateaux britanniques, mais que par ailleurs, il me semble que eux-mêmes n'ont pas accès aux eaux britanniques, vous me dites si je me trompe. En tout cas, voilà, ce Brexit et les histoires... Oui, non, vous semblez, Sébastien, Pascal Le Floch.
Il y a un accord Norvège-Royaume-Uni, mais l'accord, il est à minima, parce qu'en fait, auparavant, il y avait un accord... historiquement, il y a un accord Norvège-Union européenne, qui date de l'époque où la Norvège a refusé de rentrer dans l'Union.
D'accord.
Et qui fait des échanges de quotas sur l'eau, qui fait notamment permet aux bateaux européens de pêcher au nord de la Norvège, au Svalbard ou en mer de Barents. Et en fait, le Royaume-Uni était un immense bénéficiaire de cet accord-là. Et le fait de sortir de l'Union a imposé au Royaume-Uni de négocier directement avec la Norvège. Et en fait, le Royaume-Uni n'était plus capable de mettre les contreparties qu'ils avaient auparavant sur la table. Parce qu'en fait, il y avait des jeux d'échange de quotas qui permettaient d'accéder à ces eaux-là.
Juste pour resserrer la focale pour la minute qui nous reste avant de partir pour Jersey, si on s'en tient de nouveau aux relations entre les pêcheurs britanniques et français, il se trouve qu'est entrée au mois de mars en vigueur l'interdiction de pêche dans 5 aires marines protégées, notamment une dans la Manche qui abrite une colonie de dauphins et de marsouins au large de la baie de Seine, donc Cherbourg et Le Havre d'un côté, Portsmouth et Brighton de l'autre. Est-ce que les Français disent que c'est une façon de les tenir à l'écart de la pêche, que c'est une mesure du gouvernement britannique pour les affaiblir? Qu'en pensez Pascal Le Floch quand on entend par ailleurs ce que vous dites, que les volumes, les stocks de poissons dans la mer se raréfient sur certaines espèces, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ces aires marines protégées?
Alors c'est pas simplement une méfiance des pêcheurs français à l'égard des Britanniques. On travaille actuellement sur un projet ambitieux à l'échelle nationale sur l'éolien en mer et les impacts sur la pêche, programme Éole en mer financé par l'ADEME. Donc là on est plus avec des acteurs de la pêche. Et en baie de Seine, port en Bessin par exemple, port en Bessin, c'est le troisième port de débarquement après Boulogne et Erquy en 2023 avec la coquille Saint-Jacques, et les pêcheurs de la baie de Seine sont relativement inquiets, certes de l'extension des aires marines protégées côté britannique, mais aussi de l'occupation de l'espace par les champs d'éoliennes en mer, c'est-à-dire un sentiment d'exclusion d'un territoire maritime qui leur appartenait, je dirais, par le passé. Donc cette méfiance n'est pas uniquement à l'égard des Britanniques, mais aussi d'une industrie nouvelle, concurrente, et la question, c'est enjeu halieutique versus enjeu énergétique, notamment. Et là, ça sera naturellement aux décideurs politiques de trouver le meilleur compromis pour les deux parties.
Alors, le Brexit a quant à lui signé la fin de l'accord de la baie de Granville, un accord bilatéral entre l'île anglo-normande de Jersey, le Royaume-Uni et la France pour légiférer les droits de pêche, une entente qui tenait depuis 20 ans, même si elle était précaire. On part à Jersey dès maintenant avec le groupe Granville.
J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Granville. Tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey.
Granville, un groupe de trois musiciens originaires de Caen et leur chanson Jersey, tout recommencer à Jersey pour les pêcheurs aussi français, britanniques et surtout ceux de Jersey. Il a fallu tout recommencer après le Brexit.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Mon arrière-grand-père était pêcheur, mon père est pêcheur, mon frère est pêcheur à Carteret, mon oncle a été pêcheur aussi. Donc on est une famille de pêcheurs, ça... Pour les jeunes qui vont reprendre la suite, c'est pas gagné du tout. Mais en tous les cas, on se laissera pas faire, c'est ça le truc aussi. C'est qu'on pourra pas se permettre de laisser faire, sinon on peut plus vivre, on gagne plus nos vies. S'ils nous empêchent de travailler chez eux, on les empêchera de débarquer. Donc ce sera une guerre interminable. Sachant que 70% de leur pêche est débarquée chez nous, ils pourront plus vivre non plus. Après c'est chez eux et puis on peut pas faire autrement. Nous on a juste à se plier, c'est tout. Et c'est Bruxelles qui décide. Bruxelles et eux, ils vont s'arranger.
Quand il dit « eux », ce pêcheur, c'est l'île de Jersey, à 22 km des côtes normandes, 150 de celle de Grande-Bretagne, entre pêcheurs de part et d'autre. La cohabitation a été réglementée depuis 20 ans par l'accord dit de la baie de Granville. L'entente tenait, mais elle était précaire et le Brexit a tout fait chavirer. Bonjour Christian Fleury.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie, chercheur associé au laboratoire ESO, un centre de recherche sur l'espace et les sociétés de l'université de Caen-Normandie. Des poissons et des hommes, tel est le titre de notre série. Alors d'abord, quels poissons sont en jeu dans les jeux de Jersey, Christian Fleury? Est-ce que Français et Britanniques convoitent les mêmes?
Oui, alors en fait, on parle de poissons, mais là, c'est un éventail plus large que le poisson, puisque si le poisson est présent... On va pas dire qu'il est omniprésent autour de Jersey, puisqu'il s'agit également et peut-être même essentiellement de coquillages et de crustacés.
Et de homards pour les anglo-normands qui se sont spécialisés dans le homard. La pêche était réglementée entre pêcheurs britanniques et pêcheurs français depuis 20 ans, depuis l'accord de la baie de Granville. Alors quel était cet outil juridique que le Brexit a finalement rendu caduc, Christian Fleury?
Alors, donc, en fait, les relations avec Jersey, puisqu'on va, je crois, me semble-t-il, oublier Guernesey aujourd'hui. Alors, je voulais juste rappeler le contexte. On est dans un espace restreint, hein, délimité par l'angle droit des côtes du Cotentin et du nord de la Bretagne. Et donc, il y a 6000 km² d'eau britannique dans cet espace restreint. Donc, ça prend énormément de place, hein, pour seulement moins de 200 km² de surface terrestre. Donc, en ce qui concerne les relations avec Jersey, donc elles ont fait l'objet d'accords particuliers avec la France sous l'égide du Royaume-Uni. Donc, ce sont, vous l'avez rappelé, les accords d'Abbé de Granville qui ont été signés en 2000 après 13 ans de négociations rock by rock, hein, selon l'expression. Je reprends l'expression d'un négociateur de Jersey. Donc, c'est pour dire un peu l'âpreté de ces négociations. Donc, après une longue chronique, hein, de désaccords, de voisinages plus ou moins paisibles, ou encore d'arbitrages internationaux. Donc, il s'agissait d'un accord qui, à ma connaissance, n'avait pas ou peu d'équivalent au monde, hein, tout au moins à ce niveau de précision. On peut vraiment parler de surmesure. Et donc, cet accord organisait des accès réciproques des Français dans les eaux de Jersey, mais également, bien sûr, des Jerseyais dans les eaux françaises.
Donc, les pêcheurs normands, bretons et Jersey avaient accès à la ressource sur un pied d'égalité. La mer, par ailleurs, était fermée, me semble-t-il, aux bateaux extérieurs. Jersey a été concerné par le Brexit à partir du moment où le Parlement britannique a décidé d'inclure les trois dépendances que sont Jersey, Guernesey et l'île de Man dans la couronne britannique. À partir de ce moment-là, est-ce que les pêcheurs de Jersey et des côtes normandes ont pu continuer à discuter en bilatéral comme ils l'avaient toujours fait, ou est-ce que c'est l'Union européenne d'un côté et le gouvernement britannique de l'autre qui ont pris le relais?
Donc, alors en fait, le vote du Royaume-Uni pour la sortie de l'Union européenne en 2016 ne semblait pas forcément constituer de menace a priori, hein, ne serait-ce que parce que Jersey ne faisait pas partie de l'Union européenne et que ces eaux n'étaient pas de ce fait assujetties à la règle commune, hein, étant de plus protégées par le traité de la baie de Granville internationalement reconnu. Donc, mais on ne pouvait pas ignorer la façon bruyante dont un certain nombre de pêcheurs de Jersey, dont notamment le président de leur association, donc se réjouissaient d'un vote. D'ailleurs, on l'a entendu plus avant dans votre émission, hein, donc un vote qui était largement soutenu en Grande-Bretagne par les milieux de la pêche. Mmh. Alors cet accord a continué de fonctionner correctement jusqu'en 2018, année au cours de laquelle donc les pêcheurs de Jersey ont décidé de boycotter les réunions au prétexte que les Français traînaient des pieds sur certains dossiers techniques. Et puis à la toute fin de l'année 2020, lorsque le Brexit a enfin été finalisé après tous les atermoiements que l'on connaît, les choses se sont emballées concernant les activités de pêche autour des îles anglo-normandes, et ceci selon des modalités un peu imprévues, un peu à front renversé, hein, puisque il y a eu un statu quo avec Guernesey qui satisfaisait les Français alors que le dialogue était rompu depuis une trentaine d'années, alors que qu'avec les Jerseyais, que l'on fréquentait, donc on l'a vu assidûment, trois fois par an, dans le cadre des accords d'Abbé de Granville, les choses ont pris une mauvaise tournure, hein, si on se place du côté des pêcheurs français. Alors, vous l'avez rappelé à juste titre, il y a d'abord eu la décision qui était une espèce de prérequis du côté anglais du Parlement britannique début décembre 2020, qui a décidé d'inclure dans la négociation, enfin dans le TAC, dans le traité, les eaux des trois dépendances de la couronne britannique, île de Man, bailliage de Guernesey et bailliage de Jersey. Donc ça, c'est voilà. Et en fait, ça a été une surprise, hein, y compris apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, du côté des îles, et notamment à Jersey.
Mais parce qu'à l'échelle, donc cette ça, fois, juste pour vous demander, parce qu'à l'échelle, cette fois, non pas des poissons, mais des hommes, des pêcheurs de Jersey et de Normandie qui se connaissaient pour certains depuis très longtemps, qui se rencontraient régulièrement autour d'une table pour faire le point sur des accords établis entre eux depuis 20 ans, le Brexit, est-ce qu'il a accentué des tensions qui existaient déjà, ou est-ce qu'il a tout simplement divisé tout le monde, notamment ce président des pêcheurs de Jersey, Don Thompson, dont vous parliez, qui était très favorable au Brexit, qui répétait à l'envi que les Français venaient piller les eaux de Jersey. Est-ce que tout ça s'est vraiment envenimé au moment du Brexit, ou c'était déjà très tendu?
Alors, il y avait une légère tension, mais bon, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, hein, les relations, mais il y avait une habitude de se parler qui a été totalement rompue par le Brexit, hein, et donc ça c'est, disons que il y a eu une opportunité, certains à Jersey ont vu une opportunité pour essayer d'éjecter les Français, clairement, quoi. Hein. Mais alors là, on n'est pas dans le. Il faut vraiment. Tout n'est pas du même niveau. Hein. Il y a beaucoup de pêcheurs. Il y a des pêcheurs de Jersey qui n'étaient pas pour le
Brexit.
L'absence de dialogue.
Ou l'absence de dialogue, d'accord.
Le Brexit, je ne sais pas exactement. Enfin, en tout cas, pour l'absence de dialogue, et d'autres qui étaient prêts à vraiment passer par-dessus et à éjecter les Français.
De part et d'autre.
Voilà.
Oui, de part et d'autre des mécontents. Le vice-président côté normand, le vice-président du comité régional des pêches, qui lui-même pêche le homard depuis longtemps et qui connaît les négociateurs de Jersey, s'est vu rejeter son dossier. Il estime que c'est une provocation parce qu'après, il a fallu attribuer des licences. Combien de licences aujourd'hui ont été octroyées par le gouvernement de Jersey ou par les Britanniques, je ne sais pas, aux pêcheurs français?
Donc en fait, alors on partait d'une situation où il y avait près de 700 bateaux qui théoriquement pouvaient aller autour des eaux de Jersey. Alors en fait, quand on dit ça, on a l'impression que c'est énorme.
Énorme.
En fait, il y a certains bateaux qui n'y allaient pas, qui n'y allaient plus, ou qui allaient un jour ou deux par an. Enfin bon, en fait, voilà, il fallait effectivement toiletter un petit peu pour remettre les choses au clair au niveau des licences. Actuellement, il y a moins de 200 licences. Hein, le nombre exact, entre 150, 160, je ne sais plus exactement. Mais il y a plus qu'une à peu près 150, 160 licences qui sont octroyées aux Français, donc par les autorités de Jersey.
Et beaucoup de pêcheurs qui étaient en 2021 à 2 ans de la retraite, par exemple, ont obtenu une licence. En tout cas, c'est ce que disent aujourd'hui les pêcheurs français, que les Britanniques essayent de tarir peu à peu le nombre de licences françaises. Je ne sais pas ce que, aujourd'hui, après avoir discuté de tout ça avec les pêcheurs, si vous estimez que c'est juste.
Bon, alors ça, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Hein. Alors, il y a des assurances. Alors, apparemment, il semble que la France ait l'assurance que la remise à plat de 2026, hein, qui va avoir lieu pour tout ce qui concerne les relations de pêche avec le Royaume-Uni, ne concernera pas les eaux de Jersey et de Guernesey. Hein. Ça a l'air d'être acté. Bon, ce qui est évidemment une bonne nouvelle malgré tout, parce que même si on pense à un tarissement des nombres de licences, on est quand même l'activité pourra continuer pour un certain nombre de pêcheurs. Donc il y a le gros changement, en fait, c'est que avant on se parlait 3 fois par an, on pouvait se parler directement, et maintenant pour se parler, ben il faut passer par entre Granville et Saint-Hélier, par exemple, il faut passer par Paris, Bruxelles, Londres. Donc vous voyez tous les risques de déperdition, de mauvaises interprétations, de délais prolongés, etc. Donc
Merci.
En fait, la chose à faire maintenant, c'est de mettre en place, d'inventer de nouveaux canaux, de rénover, de négociations entre les différents pêcheurs.
Et qui existe toujours, une réunion a eu lieu en septembre avec la mise en place d'un plan de planification marine. Alors, dans le détail, c'est très compliqué, mais les pêcheurs de chaque côté essayent de faire montre de bonne volonté, de trouver des solutions communes. Merci beaucoup Christian Fleury, docteur en géographie, chercheur associé au laboratoire ESO, Centre de recherche sur l'espace et les sociétés de l'Université de Caen-Normandie, d'avoir été avec nous. Pour la minute qui nous reste, je me tourne vers Sébastien Metz et Pascal Le Floch. On sent combien les pêcheurs des deux côtés sont inquiets, et notamment surtout en France, pour leur criée, la déstabilisation des petits marailleurs, les marchands de marée, les vendeurs de poissons à la criée, vous nous en parliez tout à l'heure. C'est pareil pour les relations qui régissent la pêche avec Jersey. Comment, aujourd'hui, pour conclure, est-ce que le Brexit, s'il n'est pas la cause de tous les maux qu'on décrit depuis tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il va accentuer une tendance qui est déjà à l'œuvre? C'est la concentration du secteur de la pêche, la concentration de ces entreprises. Sébastien Metz.
Oui, le Brexit a cet effet second qui n'était pas forcément anticipé au départ lorsque on a eu le vote du référendum, qui était que généralement pour passer une frontière, il faut être gros. Et en fait, comme ça met de côté beaucoup de petits acteurs, ça renforce justement des acteurs dominants sur le marché, et donc ça renforce des entreprises qu'on n'avait pas l'habitude de voir vraiment sur le secteur, et ça pousse à une même à des fusions dans certains endroits pour Merci. Justement faire face.
Et la grande distribution qui a déjà pris le contrôle depuis plus de 10 ans, bien avant le Brexit, de ce secteur, et les chalutiers de 24 mètres par exemple, qui sont typiques des pêcheurs français, sont de moins en moins rentables, et les grands ports qui accueillaient ces bateaux le savent, comme Lorient, assez déserté aujourd'hui et très inquiet pour son avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux, Pascal Le Floch, enseignant-chercheur en économie au laboratoire Amur de l'Université de Brest, et merci Sébastien Metz, économiste des pêches pour le bureau d'études Sakana Consultant. Vous étiez tous les deux en direct depuis France Bleu à Quimper. Je remercie Olivier Crépé de vous avoir accueilli. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et ce qui a retenu votre attention, Catherine, ce matin, c'est un tollé national au Ghana.
Un prêtre traditionnel influent de 63 ans a épousé une jeune fille de 12 ans. Les photos et vidéos de ce mariage, relayées sur les réseaux sociaux, ont effectivement choqué une grande partie du Ghana. La jeune fille a depuis été placée sous protection policière, annonce le quotidien Daily Graphic. La chaîne télévisée City News à Accra et la BBC à Londres évoquent aussi des tensions entre les défenseurs des droits des enfants et les gardiens de tradition dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, tradition vantée notamment par la chaîne d'information locale Ablaïde TV Online. Les chefs de la communauté indigène Nungwa, près de la capitale ghanéenne Accra, communauté à laquelle appartiennent la jeune fille et le prêtre, ont expliqué que la cérémonie pratiquée ce week-end n'était qu'un rite coutumier, que personne n'attendait de la jeune fille de 12 ans qu'elle ait des relations sexuelles avec son mari. Mais la chaîne ghanéenne TV3 et le tabloïd britannique Daily Mail rappellent que dans des vidéos, on peut voir et entendre des membres de la communauté Nungwa demander à la jeune fille de se préparer à ses devoirs d'épouse et de se rendre plus attirante aussi pour son mari, je le rappelle, de 63 ans, avec du parfum qui lui avait été offert.
No matter how they twist, you know, the conversation and say that it's not exactly a marriage where there'll be conjugal, you know, relation between herself.
Peu importe la manière dont il déforme l'histoire en évitant de parler de relations conjugales, ce mariage est illégal car au Ghana, on ne peut pas se marier avant l'âge de 18 ans, rappellent les journalistes de la chaîne TV3 qui s'inquiètent par ailleurs du nombre de mariages forcés qui peuvent passer sous les radars au Ghana, au-delà de ce cas avec un prêtre traditionnel influent. Selon l'ONG mondiale Girls Not Brides, une jeune femme ghanéenne sur 5 a été mariée avant l'âge de 18 ans, 5% avant leur 15e anniversaire, explique la BBC et la radio internationale américaine VOA. Par la suite, plus de 9 filles mariées sur 10 ne vont plus à l'école. Des traumatismes individuels et un gâchis national, la société de pédiatrie du Ghana et la Commission nationale pour l'éducation civique condamnent ces mariages forcés, rapporte la chaîne ghanéenne City News ainsi que le journal Daily Graphic. Pas question, disent-ils, d'accepter de la pédocriminalité sous couvert de tradition.
Et au chapitre économique, à présent, Catherine, Forbes vient de publier son classement des milliardaires dans le monde.
Plus nombreux et plus riches que jamais. 2781 milliardaires, c'est 141 de plus que l'an dernier. Leurs fortunes combinées sont estimées par Forbes à 14 200 milliards de dollars, soit 2000 milliards de plus que l'an dernier. Et c'est davantage encore que le PIB de tous les pays, à l'exception des États-Unis et de la Chine, précise le Guardian. Autre record battu cette année, 14 personnes font partie du club à plus de 100 milliards de dollars.
There are some things that only money can buy, such as a membership in the $100 billion club.
Le groupe d'élite dont la fortune s'étend sur 12 chiffres comprend donc 14 membres, 6 de plus que l'an dernier, explique un reportage du magazine Forbes. Et le plus riche de tous ces milliardaires est Bernard Arnault. Et ce, pour la deuxième année consécutive, rappelle le Guardian. À la tête de son empire LVMH, qui comprend des marques telles que Louis Vuitton et Sephora, le géant français du luxe a vu sa fortune augmenter de 10% pour atteindre 233 milliards. De dollars. Bernard Arnault devance Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, 195 milliards de dollars. Jeff Bezos, à la tête d'Amazon et d'une fortune de 194 milliards. Et puis Mark Zuckerberg, directeur de Meta et Facebook, sa fortune a le plus augmenté l'an dernier, après avoir licencié près d'un quart de son personnel, tout en maintenant d'énormes paris sur l'intelligence artificielle et le métaverse. Forbes observe d'ailleurs une ruée vers l'or grâce à l'IA, avec par exemple le PDG de la société de puces Nvidia, Jensen Huang, catapulté pour la première fois parmi les 20 plus riches du monde. Les femmes sont encore terriblement sous-représentées, rapporte Forbes, que 13% de ces milliardaires. Et la femme la plus riche est encore une fois la Française Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de la fortune L'Oréal.
Et le classement compte aussi 265 nouveaux milliardaires.
La plus connue, la chanteuse et compositrice américaine Taylor Swift, 34 ans, dont la tournée marathon Eras s'étend sur 5 continents et près de 2 ans. C'est la première artiste à devenir milliardaire uniquement grâce à sa musique, souligne le journal suisse Le Temps. Les héritiers et héritières, comme le chante Taylor Swift, sont de plus en plus nombreux, insiste le magazine Forbes, qui constate le début d'un grand transfert de richesses à travers le monde, des parents aux enfants. Mais ce n'est pas le genre de transfert ou de partage que réclament des militants de gauche, cités par le Guardian, journal britannique. Daisy Pearson, de l'organisation Global Justice Now, estime inadmissible qu'à une époque où une grande partie de la population mondiale vit dans une pauvreté extrême, quelques individus accumulent des richesses stupéfiantes, dit-elle au Guardian. Et cela n'est possible que grâce à l'exploitation et leur accaparement des ressources.
Merci beaucoup Catherine Dutu.